Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, version estivale de l'émission puisque c'est l'été. Je vous explique, on prend le temps et surtout on cherche le livre qui peut-être va vous bouleverser, qui sait peut-être vous changer même. Pour ça, il faut fouiller. Chaque semaine, Héloïse Goy et Sébastien Bordenave nous donneront de bonnes idées de romans jeunesse et de bandes dessinées. Vous les connaissez, 3 romans jeunesse pour Héloïse, 3 BD pour Sébastien, mais en plus, Vénard, un libraire de l'équipe, se joint à nous pour 3 bons romans. Aujourd'hui, c'est Anne Burzinski, librairie L'Écriture à Vaucresson, qui est avec nous. Et ensuite, bibliothèque. Nous réécouterons des visites de bibliothèque des dernières années. Cette semaine, celle de Bruno Solo et François Morel. Bonjour Héloïse, bonjour Sébastien, bonjour Anne.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Bah on commence avec vous Anne, ça me fait plaisir de vous voir, merci d'être venue jusqu'à nous. D'habitude c'est moi qui viens vous voir à la librairie L'Écriture, à Vaucresson, ça me fait un peu de chemin, mais j'ai un accueil toujours incroyable. Donc merci d'être là, et avec quoi vous êtes venue?
Alors, je suis venue avec 3 pépites, effectivement, que comme on disait, on se cherche souvent le livre, et notamment l'été on a plus de temps pour lire, et donc j'ai amené 3 pépites dans ma petite hotte, dans mon sac énorme.
On commence par un seul pour l'instant.
Ouais, déjà c'est bien, je pense.
Samuel Adrian.
Ouais, Samuel Adrian, Une année sur la route, paru aux éditions des Équateurs. Alors moi, ce texte, j'y suis allée au départ pour le côté récit de voyage aussi. Justement, c'est l'été, on a envie de s'évader, on a envie de voir ce qu'on nous propose dans cette veine-là. Et alors là, Samuel Adrian, moi, j'ai été bluffée. C'est vraiment le mot. Et il s'auto-définit comme un voyageur lexicomane. Et j'ai compris pourquoi.
Ça veut dire quoi?
Alors, justement, c'est qu'en fait, il est passionné. En fait, il a le goût des mots, il est passionné des mots. Le gars se trimballe quand même à travers le monde, mais avec une vieille Peugeot 204 et son meilleur ami, accessoirement. Et la Peugeot 204, elle est blindée de livres, mais aussi du bon vieux litré de poche que le gars a toujours sur lui. Et c'est vrai qu'il
utilise... Dictionnaire, quoi.
Non, mais ouais, incroyable. Et en fait, il a un vrai vocabulaire, du coup, enfin, il a utilisé régulièrement des mots dans le livre que je connaissais pas du tout, mais moi j'adore en fait. Et en plus, qu'on a des sonorités amusantes, enfin voilà. Et donc, un passionné des mots. Donc, le gars part avec tous ses livres sur la route, avec sa vieille voiture blindée, et il nous raconte donc son voyage vers l'Est. Donc là, c'est la Russie, la Sibérie, le Japon, les États-Unis. Donc, évidemment, c'est un vrai voyage, mais c'est pas tant dans la tradition, je trouve, du récit de voyage. Vers l'exotisme ou vers un espèce d'ailleurs fantasmé ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a un côté très réaliste, voire parfois un peu déceptif du voyage, parce qu'il a quelque chose de très honnête, en fait, dans son
écrit. Il peut s'ennuyer.
Il peut s'ennuyer, il peut trouver que tel ou tel endroit, par exemple en Sibérie, c'est extrêmement moche, mais qu'après, il y a des rencontres passionnantes, il y a des personnes avec qui il accroche, et il y a un côté très sociologique. Il aime bien parler des peuples, il aime bien parler de leur culture. Il a quelque chose comme ça de s'intéresser aux autres. Il y a quelque chose de très philosophique aussi dans ses livres. Quand il passe à Verdun, il nous parle de la guerre. Enfin, on réfléchit à plein de choses. C'est très riche, c'est très dense. Et j'ai trouvé ça vraiment du brillant, en fait.
Vous vous rendez compte, quand vous rentrez dans la librairie L'Écriture, forcément, vous repartez avec un bouquin.
On peut pas faire.
Elle est forte. Héloïse Goy, tout aussi douée.
Ah oui, bon alors c'est pas mon métier, je ne suis pas libraire, mais je vous parle d'un roman jeunesse qui avait un carton en librairie, vous le savez peut-être. Déjà 2 tomes hein, pour ce livre. Le premier tome s'appelait Renversante, c'est de Florence Hinkel. Les illustrations sont de Clotilde Delacroix. Florence Hinkel, c'est une autrice française assez populaire hein, chez les enfants et les adolescents. Et le premier volet de Renversante nous raconte l'histoire de 2 frères et sœurs de 9 ans, Tom et Léa, qui, comme le titre du roman l'indique, vivent dans un monde inversé. Renverser un monde dans lequel le féminin l'emporte sur le masculin. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui ont façonné le monde des arts, le monde du sport, des lettres. La majorité des rues et des écoles portent leur nom. Et forcément, ce sont les hommes qui s'occupent des enfants à la maison, parce que naturellement, ils semblent être faits pour ça. Et à l'école, Léa aime jouer au foot. Et comme c'est une fille, elle est naturellement douée en maths. Alors, elle sait déjà qu'elle est promise à une brillante carrière. Hein, pourquoi pas médecin, chirurgienne, ministre ou encore huissière. Mais un jour, le père de Léa et Tom essayent de créer un dialogue autour des inégalités entre sa fille et son fils. Au début, Léa n'y croit pas du tout. Elle dit qu'il crie au sexisme pour rien. Et puis, en fait, elle commence à ouvrir les yeux sur les clichés attribués au genre. Ça, c'est pour le premier tome. Il a même été adapté au théâtre hein, par Léa Brébant. Et 3 ans après ce premier tome, le nouvel ouvrage s'appelle encore Renversante, avec cette fois en sous-titre, je cite, il y a encore du boulot. Et maintenant, Léa et Tom ont 15 ans. Ils prennent encore donc davantage conscience des inégalités. Ils vont œuvrer ensemble pour tenter de bouger les lignes. Je vous laisse découvrir tout ça.
Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les mecs qui s'occupent des enfants non plus.
Non, mais alors
donc
justement...
il faut quand même rééquilibrer.
Non, mais c'est intéressant. On réfléchit aux inégalités sans non plus pointer du doigt simplement les hommes qui prennent beaucoup de place dans notre société.
J'aime bien son rêve de devenir huissière.
Bah pourquoi pas, c'est
bah
une
belle
carrière.
C'est
drôle. Ou huissière.
Juste pour vous dire, j'ai lu quelque chose qui m'intéresse, c'est que c'est un livre à la partie pédagogique qui est même conseillé par l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable, du coup, sur les inégalités.
Ça, c'est chic, ça.
Et je précise que sur le plan grammatical, l'écrivaine a pris soin d'écrire son livre entier en faisant emporter le féminin sur le masculin.
Ah oui. Ouais. Grammaticalement.
Et comme je vous disais, ça dénonce pas juste le patriarcat, on nous parle aussi de la pression faite aux hommes sur la virilité. Ça s'appelle Renversante, c'est de Florence Hinkel et Clotilde Delacroix, et c'est à l'école des loisirs.
Parfait, et je me suis aperçu qu'on n'avait pas redit le titre de Samuel Adrien.
Une année sur la route,
aux
éditions d'Équateur. Voilà.
Super. Sébastien Bordenave, on termine cette séquence avec vous, oui, avec une petite bande dessinée peut-être.
Oui, oui, Nicolas Caro, je voulais vous poser une question, est-ce que vous aimez Fab Caro?
Ah, j'adore.
Vous avez, bon, bah, je me permettais juste avant de parler d'une BD, de parler de DBD, qui est le magazine de la BD. Il y a le numéro de juillet-août qui est toujours dans les kiosques. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais je trouve que ce magazine est super bien fait. Ça part de classiques, de mangas, de trucs un peu alternatifs. Je trouve ça vachement bien. Donc, voilà,
DBD. Si
vous... DBD, le magazine de la BD. La BD maintenant, eh ben, la BD, elle s'appelle Sprague. J'ai choisi aujourd'hui des BD qui dépaysent. Elle est éditée chez Daniel Maguen. On la doit à Olivier Roman et Rodolphe. C'est une BD qui vous transporte dès les premières pages. Alors, dans une ambiance très, très étrange graphiquement, hors du temps, pas forcément féerique d'ailleurs, parce que l'eau manque et c'est un problème. On ne sait pas trop où on est ni quand ça se passe. On est visiblement dans un ancien port de pêche, mais la mer est devenue un désert.
Ça fait un peu l'enfeust.
Oui, aussi. C'est un univers moitié moyenâgeux, moitié le film Dune, moitié Star Wars. Oui, j'ai jamais été bon en maths. Les dessins sont sublimes. Il y a des airs un peu de Moebius aussi, pour ceux qui connaissent. Et ça raconte l'histoire de deux frères qui sont des grimpeurs. Alors, Héloïse, rien de grivois. Hein. Grimpeur, ça veut dire...
J'ai pas eu peur.
Paf, petit taquet. Grimpeur, ça veut dire qu'en fait, ils ont des cerfs-volants super grands sur lesquels ils grimpent, depuis lesquels ils font planer un autre cerf-volant super grand sur lequel ils grimpent, et ainsi de suite.
Tout ça pour visualiser.
Exactement, tout ça pour prendre de la hauteur et nous avec, pour tenter de repérer au loin des sources d'eau. Et ils vont d'ailleurs partir à deux en expédition pour tenter de comprendre pourquoi la mer s'est vidée. C'est une grande aventure qui nous attend. Et franchement, c'est vachement bien. Ça s'appelle Sprague, c'est publié chez MG.
Génial, et ben parfait. Donc on répète tout. Sprague, ça c'est la bande dessinée. On a Une année sur la route de Samuel Adrien aux éditions des Équateurs et
Renversante de Florence Hinkel et Clotilde Delacroix, Clotilde Delacroix à l'école des loisirs.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre, le retour de la vengeance avec l'équipe estivale pour vous donner des conseils lecture, des idées de romans, de bandes dessinées, de livres jeunesse. Héloïse Gouaïla, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée et Anne Burzinski, librairie d'écriture à Vaucresson. Héloïse Gouaïla, qu'est-ce que vous avez pour les enfants?
Un livre adressé aux adolescents. L'adolescent que vous êtes, Nicolas. Ça s'appelle « Un baiser qui palpite là comme une petite bête ». C'est de Gilles Paris.
Paris,
c'est exact. Est-ce que vous savez d'où est tiré ce titre ?« Un baiser qui palpite là comme une petite bête ». Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ça me titille, mais je...
C'est une chanson de Johnny Hallyday, ça.
Ah, c'est pas mal.
C'est un vers tiré du poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « Roman », poème qu'on connaît parce qu'il commence par la célèbre formule « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ».
Oui.
Voilà. Eh bien, Gilles Paris nous glisse dans la peau d'une dado qui découvre les premiers plaisirs de la vie, à savoir les premiers amours, les premiers émois sexuels, les premières soirées alcoolisées, les premiers excès, les premières bêtises en tout genre. Et comme dans la série « Certain Reason
Why ». Pour vous, c'est ça les plaisirs de la vie, c'est...
premiers excès, première bêtise, oui, ça fait partie des plaisirs de la vie, non?
Je suis un peu, je plus sois.
Moi, je suis choqué. Mais...
On plus sois quand même.
Oui, mais vous êtes très choqués, messieurs. Je ne sais pas si vous aviez vu la série Certain Reason Why, mais le roman démarre un petit peu pareil. Il démarre avec un suicide, celui d'Iris, une jeune femme très violemment moquée par ses camarades, qui est aussi maltraitée à la maison. Alors, tout le livre n'est pas sordide. Hein. On va faire connaissance avec des jeunes de 15 ans comme Tom, Emma, Timothée ou Sarah, qui tous font un examen de conscience suite à la mort brutale de leur camarade, parce qu'ils sont tous de près ou de loin un petit peu responsables. Et c'est en nouant des relations amicales et amoureuses qui se remettent en question, qu'ils apprennent à grandir ensemble pour trouver un peu mieux leur identité. Ce livre est adressé aux adolescents comme vous, Nicolas, mais peut-être aussi aux adultes qui n'ont pas toujours le mode d'emploi pour ces grands-enfants qui ne sont pas tout à fait des adultes. Et l'auteur propose même à la fin un petit lexique du langage propre à cette tranche d'âge.
C'est bien ça.
Du coup, vous me voyez venir,
le quiz.
Ah, ouais. Oh mon Dieu. C'est bizarre, il m'a pas eu dans la première séquence, j'aurais dû me méfier.
Je
allez-y.
Prends mon buzzer.
Okay. Dans le langage adolescent, qu'est-ce qu'une frappe?
Oh là,
une frappe
bah, un voyou
une brute.
Non, je pense pas, non.
C'est un coup de poing?
Non. On pourrait dire un avion de chasse.
Ah, ah. Oui, alors c'est ce que je me disais. Ah, quelqu'un, comment dire?
Beau gosse,
un beau gosse, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. C'est quelqu'un gosse, sexy.
Plus,
ou,
voilà,
ouais,
plus
voilà.
Employé par les ouais. garçons pour les filles. D'accord. Ça désigne d'accord. une fille superbe, particulièrement sexy. Voilà, une frappe, un avion de chasse.
Et
deuxième.
Bois, quoi.
Est-ce que. Voilà, exactement.
Bah, oui.
Je pourrais
ouais,
pas me le dire.
Clairement.
Qu'est-ce qu'un charreau, messieurs, mesdames?
Un charreau. Bah, y a dans... Aya Nakamura a dit. Elle... Oui. Mais je ne sais pas ce que c'est.
Ça, oui,
elle a l'occasion de savoir.
Moi, je me suis arrêté à Bolos, je crois.
Ah, ah oui, non, mais là, là on est en 2010, Nicolas.
Déjà, c'était.
Oui, mais non.
Là, vous avez 12 ans de retard.
Charreau, un charreau, un copain, un amoureux.
Mon non, un charreau.
C'est
ça
pour,
vient...
pour les champs.
Non, pas
pour creuser les sillons.
C'est pour ça qu'on l'utilise souvent. Un charreau, ça vient de charognard. Et c'est un garçon qui court après la fille. C'est un don juan qui multiplie les conquêtes.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais un charreau, c'est pas très
positif.
Pas très positif.
Voilà, exactement.
Non plus, hein.
On en fait un dernier.
Okay.
Un schlag. Vous l'entendez,
un
c'est
schlag.
Sûr.
Ah
si
ouais,
vous
c'est un schlag, on l'entend.
C'est un schlag. S-H-L-A-G. Un
non,
schlag.
Je sais pas.
C'est quelqu'un de méprisable et donc de peu fréquentable.
D'accord.
Un peu comme vous, Nicolas. Non, mais vous êtes un schlag.
Mais... Non, mais je m'en prends
plein
la gueule.
Voilà.
Merci la frappe.
Génial.
Vous me rappelez le titre?
Oui, un baiser qui palpite là comme une petite bête de Gilles Paris, c'est chez Gallimard.
C'est un poème de Rimbaud, ça, non?
Et oui, mais comment vous le savez? Vous avez très bonne mémoire, Nicolas.
Anne Burzitsky, c'est à vous. De quoi vous nous parlez?
Alors, je vais vous parler de Héritage de Miguel Bonnefoy, paru aux éditions Rivage. Alors,
en format poche.
Oui, et en grand format aussi d'ailleurs, c'est Rivage dans tous les cas. Et maintenant, il est en poche, donc d'autant plus de raisons de le glisser là, dans son sac de plage, sa valise, j'en sais rien, enfin qu'il parte avec vous. Alors là, je m'adresse aux auditeurs, je m'adresse aussi à mes chers camarades. Vous aimez les romans de famille?
Oui.
Oui. Oui. Surtout quand ils sont bien écrits.
Oui. Oui.
Et bien là, mes enfants, vous allez être servis. Vous allez suivre la famille Lonsonnier, donc une famille originaire du Jura, exilée au Chili. Donc là, déjà, on voyage, hein, c'est déjà une évasion en soi. Mais alors, en plus, par-dessus, c'est quand même Miguel Bonnefoy qui est aux commandes. Donc,
franco-vénézuélien.
Ouais, voilà. Mmh. Et qui a un univers, et qui a un talent de conteur indéniable. Et du coup, là, vous avez des personnages, et c'est ça qui est génial, des personnages hauts en couleur, des personnages attachants comme pas possible, comme on aime. Et alors là, voilà, pour ne citer qu'elles, on a déjà deux personnages féminins que j'adore, qui sont donc Thérèse, qui est ornithologue, dresseuse de rapaces. Je veux dire, on n'en voit pas non plus toutes les 15 secondes, ce genre de personnage. Et Margot, qui est aussi dans la famille et qui est une jeune fille qui rêve d'être aviatrice. Oui. Donc, je trouve que c'est beau, les personnages.
Qui est née dans une volière, d'ailleurs.
Oui, qui est née dans une volière, justement. Donc, on a ce, bah oui, toujours ce rapport aux oiseaux, à la liberté, quelque part. Et c'est des personnages, de toute façon, très libres, très rêveurs. Et donc, on a de l'air, justement, avec eux. Et voilà, c'est un régal de bout en bout, c'est un petit trésor. Et moi, j'aime les livres qui me font voyager de plein de manières différentes. Et là, voilà, ce roman familial, c'est des personnages que vous n'oubliez pas. Et c'est un vrai plaisir, quoi, de lecture.
Et puis, on suit ces générations de Lonsonnier sur un siècle, mais tout ça en 190 pages.
Ouais.
Et c'est on voit pas les raccourcis.
Mais c'est ça, c'est qu'en c'est plus, il se paye le luxe d'être synthétique et efficace et de tout dire en peu de mots. Enfin, alors ça me bluffe. Donc, Voilà, j'adore.
Et il a un nouveau livre qui arrive à la rentrée
oui,
aussi.
Oui, l'inventeur.
Qui est super. Ouais. Je l'avais lu déjà.
Il est dans mon sac.
Oui, il est super. Moi, je l'ai fini la semaine dernière. Aussi
en,
bien que
En attendant, on peut trouver Héritage en poche. Miguel Bonnefoy, merci beaucoup. Anne Burzinski.
Avec plaisir, Nicolas.
Sébastien Bordenave, une petite bande dessinée
oui,
pour terminer.
Oui, une grande bande dessinée.
Grosse, ouais.
Une grosse
grand
bande
format
dessinée.
Et tout.
Une autre BD très esthétique et dépaysante. Je crois qu'Héloïse la connaît bien.
Wow.
C'est
adoré.
Écoute, Jolie Martia de Marcello Quintanilla. C'est publié chez ça et là. Effectivement, la BD a eu le Fauve d'or du Festival d'Angoulême cette année. Et cette BD, bah, c'est vrai qu'elle a un charisme de ouf, comme disent les Guedins.
Mais pas les schlags.
Voilà. Mais, et quand on l'installe sur une devanture de librairie, et bah, on ne voit plus qu'elle. Les couleurs sont vives et chatoyantes. On dirait presque du South Park, si on voulait vraiment caricaturer.
Ah, oui, ça fout, ouais.
Dans la famille du dépaysement, bah, on est servi parce que ça se passe à Rio, dans les favelas. Et tout au long de l'histoire, il y a une tension culturelle, conflictuelle que l'on ressent. Une chaleur moite qui se dégage de la BD. Il y a de la fight. On va suivre la vie de Marcia, une infirmière qui a un cœur gros comme ça, et pas que le cœur d'ailleurs, parce que c'est une femme qui a des formes et qui doute beaucoup d'elle. Elle demande régulièrement à son mari si il la trouve encore jolie. La question va lui être souvent posée, mais la réponse attendue ne viendra jamais. Mais c'est pas grave, parce que Marcia, elle va surtout avoir une flopée de contrariétés et non des moindres à gérer. Sa fille flirte avec des garçons venus des gangs. Elle a la cuisse et le cerveau léger. Elle se permet toutes les provocations. On oscille en fait durant toute l'histoire entre la drôlerie des dialogues et un certain malaise, parce qu'on a vraiment envie que Marcia, la maman, goûte à la sérénité enfin. Et il y a des, en parlant des dialogues, je vous en cite un, page 41. La fille dit à la mère « Oh, il n'y a pas de quoi boucher une dent creuse. Qu'est-ce qui te prend ? Il y avait la foule au centre commercial et les WC étaient occupés, c'est ça ?» Je trouve, voilà, il y a du langage fleuri, il y a des guns, il y a des cris,
imagé,
y a de la
on
vie.
Voit bien là.
Oui, oui. C'est une BD qui a cartonné cette saison, et si vous l'avez loupé, bah, l'été est là pour le rattraper. L'auteur de la BD, c'est Marcello Quintanilla, brésilien. Sa mère était institutrice et son père joueur de foot. Dans une interview, il a dit bah ouais, bah comme tout le monde au Brésil. Je trouvais ça rigolo. Ça s'appelle Écoute Jolie Marcia. C'est publié chez Ça et Là.
C'est parfait. Et on redit les titres d'Héloïse.
Un baiser qui palpite là comme une petite bête. C'est de Gilles Paris chez Gallimard.
Parfait. Et Anne Burzinski.
Héritage de Miguel Bonnefoy.
Format poche. Merci. Restez avec moi, mes schlags. On se retrouve dans un instant pour bande dessinée, roman jeunesse et roman tout court. A tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre continue, version été, avec les chroniqueurs qui nous donnent des bonnes idées. Sébastien Bordenave est là pour les bandes dessinées. Héloïse Guay pour les romans jeunesse. Et Anne Burzinski pour toutes sortes de livres, tous les livres
présente.
Du monde.
Tout est
la libraire, notre libraire de Vaucresson, librairie L'Écriture qui... Cette fois, elle nous a fait la joie de venir en studio, alors que d'habitude, c'est moi qui viens vous voir.
C'est trop bon
aussi.
Je suis
bien content que vous soyez là. Sébastien Bordenave, on commence avec vous et une bande dessinée.
Oui, dépaysante, mais dans un genre particulier, c'est le dépaysement des sens, j'ai envie de dire.
Ça commence dur.
Oui. Le titre « Itinéraire d'une garce ». Et si on la retourne, la BD, pas la garce, c'est écrit en petit.
Il a fond, le charreau quoi.
C'est écrit en petit sur la BD, mise à disposition des mineurs interdites. Donc si vous lisez,
carrément.
Oui. C'est édité par Porn Pop. Voilà. Donc si vous la lisez à la plage, bah, n'hésitez pas à vous munir d'un petit brumisateur si vous êtes une femme, ou vous mettre sur le ventre si vous êtes un homme en ayant pression de faire auparavant un petit trou dans le sable.
Sébastien,
voilà. Ça s'appelle donc non, c'est vachement
oui,
bien.
Mais c'est l'été.
Exactement. Mais ça s'appelle Itinéraire d'une garce. J'ai été vérifié dans un Larousse. Garce, c'est femme de mauvaise vie. J'ai été vérifié sur le site encyclopédie.fr. Femme de mauvaise vie, c'est prostituée. Donc on n'est pas dans ce qu'on appelle un compliment. C'est ce qu'explique d'ailleurs Céline Tran dans la préface. Alors Céline Tran, c'est elle qui dirige la collection Porn Pop chez Glénat, dans laquelle est publiée la BD. Et elle signe pour cette œuvre des textes éclairants qui sonnent parfois comme des réflexions personnelles, mais qui collent aussi à l'histoire de la BD. Céline Tran explique donc dans la préface que répondre aux critères moraux édictés par la société n'est pas forcément la meilleure manière d'être heureux dans sa sexualité. À méditer. C'est le thème de la BD Itinéraire d'une garce, l'histoire de Élise, 52 ans, heureuse en amour, journaliste, son couple est sage, un peu routinier, mais plutôt agréable, jusqu'au jour où elle tombe sur un message vocal qu'elle n'aurait jamais dû écouter. C'est la douche froide, le grand chambardement, l'abattement, qui va peu à peu laisser la place à une redécouverte de ses sens, de sensations qui hibernaient un peu.
Bah dis donc, c'était quoi ce message ?
Elle se rend compte que son mari avait des rendez-vous dans un hôtel et elle n'était pas au courant. Voilà. Donc elle va se lancer elle-même aussi dans des expériences extra-conjugales, d'abord par esprit de vengeance, puis vraiment par plaisir. On pourrait croire, dit comme ça, que l'histoire en fait est assez classique, mais loin de là. D'abord parce que les dessins de l'italienne Grazia La Padula sont tout ce qu'il y a de plus onirique et réel, sensuel et amusant, audacieux et plus si affinité. Et que le scénario, bah, il ne va pas être avare en rebondissement. C'est interdit aux moins de 18 ans, et tant mieux, car le plaisir s'accroît quand les faits se reculent.
Ah ouais, la c'est dernière stylisé phrase, quand même.
Oui, c'est très stylisé, c'est très beau. La dernière phrase écrite dans la BD, c'est « Quelle femme je veux être ?» Je pense qu'on peut se poser la question, bah, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, et prendre beaucoup de plaisir à se plonger dans cet itinéraire d'une garce qui est tout sauf balisé. C'est publié chez Glénat.
C'est un côté un peu onirique, quoi. Oui, c'est ouais, pas des lignes oui, claires.
Exactement.
Vous avez la réponse, du coup, Sébastien, quelle femme souhaitez-vous être?
Et ben, on a toute sa vie pour trouver là et les réponses.
Héloïse Goua, justement, c'est à vous.
Un album des familles, ça s'appelle Grandes Oreilles, Toutes que... Oreilles.
Et... C'est vraiment pour tout le monde.
Il y a un très sale,
c'est tout public.
album de famille parce que c'est écrit, illustré et mis en musique par la famille Chédid. Et alors, peut-être que vous connaissez le nom de cet album, Grandes Oreilles, Toutes Oreilles, parce qu'il s'agit du tout premier album jeunesse de l'écrivaine André Chédid, écrit dans les années 70.
La grand-mère de M.
Exactement. Et cette fois, ce sont donc ses enfants et ses petits-enfants qui reprennent le flambeau et pour le transformer en livre-disque. Et pour raconter l'histoire en version audio, c'est son fils Louis Chédid qui s'en charge. Sa petite-fille Émilie illustre la version papier et son autre petit-fils Mathieu alias M qu'on connaît tous. Mais évidemment, tout ça en musique, on écoute. Non, c'est un extrait de la chanson du nom, N-O-N.
Ils sont sympas, les chiens.
Quelle famille. Hein.
Mais oui, c'est vrai qu'on les aime tous.
On a trop envie d'aller boire un verre
d'être amis avec eux.
Eux.
Ouais. Pourquoi pas me passer des vacances.
Ça doit être bonne franquette chez eux.
C'est sûr. Alors là, vous venez d'entendre un extrait de la chanson du nom, N-O-N, parce que non, c'est un mot que Pilou répète souvent. Il porte même un t-shirt avec l'inscription No Way, parce qu'en fait, il est malheureux. C'est un petit garçon moqué par ses camarades à cause de ses grandes oreilles décollées. Mmh. Et même si son ami Malou tente de le divertir avec un ballon, il n'y a rien à faire. Pilou s'isole. Mais un soir, alors qu'il espère de toutes ses forces que ses oreilles disparaissent pour qu'on le laisse tranquille, il arrive quelque chose de bien mieux que ça. Tout à coup, les oreilles de Pilou se mettent à grandir. Elles deviennent énormes, géantes, extraordinaires, jusqu'à devenir des ailes. Il se met à voler à côté d'hirondelles. Il voit le monde de haut, y compris d'autres enfants qui ont l'air malheureux parce qu'ils sont complexés par d'autres parties de leur corps. Et c'est cet événement fantastique qui va permettre à Pilou d'accepter sa différence et d'en faire une force. C'est donc un joli conte sur la tolérance, sur la résilience et sur l'acceptation de soi. Puis je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que le talon de M n'enlève rien à la poésie de ce livre. Le combo de toute la famille est très réussi. Le nom du livre, c'est Grandes Oreilles, Toutes Oreilles, de la famille Chédid. C'est chez Robert Laffont, en coédition avec Wagram Livre. Et le livre est évidemment livré avec un CD.
Bien sûr. Merci beaucoup, Héloïse. Anne Burzinski, vous aussi, c'est un livre pour les jeunes, plutôt, c'est ça?
Ah bah, tout à fait. Alors, en fait, au départ, il est effectivement sorti. C'est un roman adolescent. Mais tellement bon et tellement drôle que finalement il est aussi sorti en folio classique, donc il est vraiment pour tout le monde en fait. Hein, pour le... C'était aussi
comme
pour
beaucoup
que justement...
de romans jeunesse, exactement. En fait, c'est très ténu comme
exactement,
frontière.
Exactement. Et d'ailleurs, c'était pour pas lui faire injustice, je pense qu'il est aussi sorti dans cette collection pour qu'il n'y ait pas le complexe entre guillemets et que tout le monde se sente concerné. Et du coup, donc La Fourmi Rouge, c'est l'histoire de Vania Strudel. Alors effectivement, déjà rien que son nom, et elle-même, elle le dit, alors j'ai un prénom de serviette hygiénique, un nom de famille de gâteau allemand, enfin c'est un peu la totale. Donc elle est beaucoup dans l'autodérision, Vania, et dès le début, justement, elle nous fait rire avec ces trucs un peu improbables. Elle a aussi ce qu'on appelle un ptosis, c'est-à-dire un peu comme Columbo. Elle a toujours un œil qui est un peu plus fermé que l'autre.
Un ptosis, donc, ça s'appelle ça?
Un ptosis, ouais, ça s'appelle comme ça. Moi aussi, je l'ai appris à ce moment-là. Mais...
J'en parlerai à ma femme.
Waouh, riche imitation. Et du coup, donc, elle a cette différence, elle en a d'autres, un peu comme tout le monde. Et d'ailleurs, ça répond vraiment au livre d'Héloïse, parce qu'il y a vraiment ce côté sur l'acceptation de soi. Et notamment, c'est aussi parce qu'à l'adolescence, c'est typiquement le genre de thème avec lequel on se débat un petit peu, mais toute notre vie. Et en plus, c'est un livre qui va bien au-delà de ça, mais... En fait, elle va recevoir un message anonyme qui va lui dire, en gros, maintenant, il faudrait que tu sois fière de qui tu es, que voilà, t'es dans l'autodérision, tu sais très bien rire de tes différences, mais ce serait plutôt bien que t'en sois fière, en fait, et que tu sois la fourmi rouge. Mmh. C'est-à-dire celle qui sort du lot et qui a pas honte de sortir du lot. Et alors, du coup, c'était super intéressant.
C'est l'anti-vilain petit canard.
C'est ça.
Ouais, et d'en être fière. Un peu ce qu'on disait sur les oreilles qui grandissent, c'est tant mieux, parce que quelque part, on lui dit, mais alors, tu sais quoi, il y a ton ptosis, et ben maquille-toi les yeux, tire-toi les cheveux en arrière, et fais en sorte que ça se voit. Et tout ça avec beaucoup d'humour en plus. Et c'est très malin parce qu'il y a, mine de rien, des messages importants, comme on disait, ado ou adulte, peu importe. Il y a beaucoup donc d'humour. Et je pense par exemple à son père qui est taxidermiste et qui se trimballe dans une grosse voiture en forme de chien et lui dit...
comme dans Ace Ventura.
Ouais, exactement. Ouais. On pense à ça. Ou Dumb and Dumber, je ne sais plus. Mais,
non, c'est Ace Ventura.
Et non, du coup...
Moi, j'ai un doute. Bon, bref.
Ouais, à vérifier, quoi. Mais du coup, donc c'est un peu... bah non, papa, c'est vraiment pas la peine que tu viennes me chercher à l'école. Non, je te jure, vraiment, c'est pas la peine. Et voilà. Donc, c'est une galère... Enfin, c'est une galerie de personnages, mais surtout elle, c'est génial. Et voilà, ça s'appelle La Fourmi Rouge.
Et en fait, je pense que c'est Dumb and Dumber, effectivement.
Ouais, je crois.
Jim Carrey. La Fourmi Rouge de...
De Émilie Chazeran.
Parfait.
Chez Sarbacane.
Héloïse.
Grandes oreilles, toutes oreilles, famille chez Did.
Parfait. Et tout puis, simplement. La BD Olé Olé et Onirique de Sébastien Bordenave, Itinéraire d'une garce. Merci beaucoup à tous les trois.
Europe 1, 14h, 15h. La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue et il est temps de visiter une bibliothèque, de réécouter une visite de bibliothèque. On en avait fait une superbe avec Bruno Solo il y a quelques années, avec une bibliothèque toute ronde. Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en banlieue parisienne.
Ouais.
Dans une jolie maison avec un petit jardin, c'est très mignon. Et alors là, on vient de rentrer dans votre salon et on découvre cette bibliothèque incroyable, circulaire. Ça a été fait sur mesure, ça.
Ouais, c'était un mur arrondi. C'est pas un mur d'angle, c'est un mur, un demi-cercle. Et j'ai demandé à un menuisier de me fabriquer une bibliothèque qui épouserait cette forme si particulière. Et ça a été très compliqué. Il a mis pas mal de temps parce que c'est très difficile de faire des planches droites en bois et qui, d'un côté, paraissent droites et de l'autre côté, épousent une courbe très douce comme ça. Donc, c'est un vrai travail. Je suis très fier. Je crois que c'est vraiment l'objet, le meuble que je préfère. Déjà parce qu'il a été créé, il n'a pas été acheté comme ça, et que ça a été long et que ça a été un travail de fou. Et quand il a eu terminé, et que je lui ai indiqué, voilà, fais-moi des cases un peu plus grandes, ce sera pour les livres d'art, des plus petites pour les livres de poche, des moyennes pour les BD, des plus larges, des plus hautes. Donc, elle est un peu anarchique, comme ça, cette bibliothèque. Et en même temps, bon, voilà, elle est anarchique aussi dans son rangement. Hélas, vous n'avez pas les images.
C'est une tour de livres, en fait. Ouais, d'un côté infini, parce qu'on ne voit pas la fin, mais évidemment, ça tourne, donc on est d'un côté.
Et il doit y avoir un truc comme, 3000 bouquins.
Ouais, il y a beaucoup de livres. Et effectivement, là, comme ça, de loin, bon, il y a quelques beaux livres d'un côté, quelques BD de l'autre, mais sinon j'ai l'impression que c'est pas hyper, hyper rangé, Bruno.
Ouais, c'est mon drame. Elle a été rangée. Elle a été formidablement rangée parce que je suis assez maniaque. Elle a été rangée par auteur. J'ai même à un moment, j'avais fait des classements aussi par genre. C'était plus compliqué, mais sur des petites... Et puis j'ai eu un problème, c'est que quand j'ai fait fabriquer cette bibliothèque, j'ai stocké mes livres dans des cartons, dans mon garage, et il y a eu des pluies torrentielles. Mon garage étant en pente, les cartons se sont pétés la gueule, et ils se sont déchirés, et tous les livres se sont mélangés. Alors il y a des blocs logiques où on retrouve des auteurs les uns à côté des autres, et je me promets depuis 2-3 ans de tout reclasser. Mais c'est un travail de titan, parce que comme pour une loi, il y a une première rangée et une deuxième rangée, il y a une couche et une sous-couche derrière.
Mais il y a quand même, c'est vrai, d'abord ces beaux livres qu'on voit en entrant. Donc beaux livres, c'est-à-dire grand format avec des photos très belles, etc. Il y a du Bosch, il y a Miro, La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand. C'est des gros beaux livres qu'on a vraiment envie de...
Il y a tout un livre sur Guernica que j'aime beaucoup, qui me tient très fort à cœur, qui est toute une étude autour de l'œuvre de Guernica en noir et blanc. Il me tient à cœur parce que en 1977, avec mon père, j'ai fait un voyage aux États-Unis et qui était principalement motivé pour mon papa d'aller voir Guernica au Met de New York, parce que Picasso avait dit, tant que Franco sera au pouvoir, mon tableau ne sera pas, qui symbolisait l'oppression du peuple espagnol par les nazis et par les armées franquistes, mon tableau ne sera pas en Espagne. Et donc nous sommes allés quasiment pour plein de raisons, mais la raison principale qui poussait mon père à aller là-bas, c'était d'aller voir Guernica. Et je me souviens de son émotion puissante, bouleversante, transperçante devant ce tableau de Guernica. Et lui, me tenant la main très fort, me la broyant quasiment. Et moi, bon, les 10 premières minutes, enfin les 5 premières minutes très ému. Et puis au bout d'un moment, envie de passer à autre chose, évidemment. Et envie d'aller voir l'Empire State Building. Et j'étais à New York. Mais voilà. Et c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années. Et voilà.
On n'a pas dit, mais il y a un fauteuil magnifique à côté de votre bibliothèque, magnifique parce qu'il appelle vraiment à la lecture.
Ouais.
Hein, c'est un fauteuil semi-allongé.
Oui, voilà, c'est idéal pour lire, effectivement. C'est, tu te mets comme ça. Alors moi, je suis petit, donc ça va, mes pieds pendent. Pour les plus grands, effectivement, c'est peut-être moins confortable. Mais moi, effectivement, c'est un endroit où, de temps en temps, j'aime bien juste tendre la main droite, puisqu'il est à gauche de la bibliothèque, tendre ma main droite, m'emparer d'un livre et le lire ou le feuilleter. C'est plutôt pour feuilleter. Quand je veux vraiment lire, je me mets dans une position plus concentrée, plus ramassée.
Alors, il y a beaucoup de romans aussi. Il y en a un qui m'attire l'œil parce que je l'adore. C'est Donald Ray Pollock, chez Albin Michel. Une mort qui en vaut la peine. C'est l'odyssée de trois frères, des desperados, voyous, violents.
Désespérés,
mais avec une force poétique. Vous aimez cet auteur, Donald Ray Pollock ?
Je l'ai découvert grâce à un libraire qui m'a dit, je cherchais un grand polar, je venais de terminer un Jim Harrison, il me dit, ah, vous aimez Jim Harrison ? Je dis, oui, tout à fait. Et il me dit, est-ce que vous connaissez Donald Ray Pollock ? Et donc, je dis non, et il m'a vendu Le diable est partout.
Le diable tout le temps.
Le diable tout le temps.
Qui est juste à côté.
Voilà, qui est juste là, le diable tout le temps.
Enfin, à côté, qui est sur une autre
étagère. Oui, je sais, mais parce que je l'ai lu à un bon moment, et l'autre, je viens de finir de le lire, donc je l'ai mis là. Il fait partie de ce que je dois classer. Je m'en sortirai jamais, c'est horrible, j'ai pas envie de parler de ça.
Il y a du plus classique, il y a Balzac, La Cousine Bête, il y a Henri Miller, Tropique du Cancer.
La Cousine Bête, c'est mon préféré.
Raymond Queneau, Zazie dans le métro, Marcel Aimé, Steinbeck, Les raisins de la colère,
Pérec. Dingue de Pérec.
Ah, j'aime bien cette collection de livres de poche.
Aussi. Elle est belle, c'est la collection de poche un peu pléiade.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est tout Pérec, ça. Si j'avais été un écrivain, j'aurais aimé écrire comme Queneau ou Pérec. Mais Pérec, en plus, il a tout pour lui, une bonne gueule, un humour formidable. C'est un mathématicien de l'écriture. C'est-à-dire une écriture à la fois très douce, très délicate, très pointilleuse et en même temps complètement débridée et scientifique quand il écrit quand même La Disparition.
Ouais, sans E.
Livre de 300 pages sans la lettre E, ouais. Et qu'il y a des critiques à l'époque qui s'en sont même pas aperçus, qui n'ont même pas vu et qui ont dit quel beau livre de Pérec. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que dans la vie d'un homme, il lui manque quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'est ? Il n'arrive pas à le définir. Et en fait, c'est une lettre, une simple lettre qui change son quotidien et sa vision du monde. C'est un livre.
Il suffit d'essayer de se faire une phrase dans la tête sans la lettre E pour se rendre compte à quel point c'est compliqué. Ouais, je suis dessus.
Mais attends, c'est.
Vous aimez la science-fiction aussi ?
Ah oui. Je crois même que j'ai été initié à la littérature par la science-fiction. C'est Bradbury, Van Vogt, Simak, Wells, bien sûr, mais c'est plus ancien, mais dans les auteurs américains, Philip K. Dick, bien sûr, Richard Matheson. Je crois que vraiment, je suis venu à ça. Et un des tout premiers livres que j'ai eu, que mon père m'est donné, parce que c'est évidemment mes parents qui m'ont laissé ça, 20 meilleurs récits de science-fiction, il est abîmé, il est dans un état épouvantable. On y retrouve La Mouche, le fameux...
Cronenberg.
Voilà, adapté par Cronenberg, de George Langland. Puis après, je me suis mis... Mais on a longtemps traité avec un peu de condescendance la littérature en France, notamment de science-fiction. Et puis, on y est revenu. Maintenant, on a découvert que des gens comme Philip K. Dick ou Ray Bradbury, c'était tout sauf juste des guignols qui écrivaient des histoires d'extraterrestres, mais des grands philosophes. Il faut avoir lu Demain les chiens pour se rendre compte à quel point c'est un livre vertigineux. Quoi. Vertigineux que Inception n'a fait que s'inspirer, à mon goût, d'un livre comme Demain les chiens.
Et à côté des livres de science-fiction, on trouve fort logiquement Jean Echenoz, Courir, qui est la biographie romancée par Jean Echenoz de Zatopek, qui est un livre incroyable. Je vois qu'il est annoté.
Oui.
Pourquoi ? Vous prenez souvent des notes comme ça ?
Le tout premier film que j'ai produit, c'est quand même dingue, t'as un œil incroyable parce qu'on n'a rien préparé, là tu tombes là-dessus. Le tout premier film que j'ai produit il y a très 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 longtemps, en 2000, et film cinéma, c'est le seul film parce que maintenant je produis que pour la télé, ça s'appelait Un an, et c'est un roman de Jean Echenoz. Aérien. Et voilà, et j'ai lu Aérien, exactement.
Ouais. C'est le livre que j'offre dès que j'ai une occasion, c'est à l'anniversaire, un truc comme ça.
Ah, c'est chouette, ça, ça me fait plaisir parce que je le trouve très délicat ce livre aussi.
Est-ce que vous avez un livre que vous offrez systématiquement?
C'est marrant que tu me poses la question. Il y avait un livre à un moment, mais c'est un peu vicieux de ma part, que j'offrais quand j'allais manger chez des gens. C'est Mangez-le si vous voulez de Jean Tenet.
Qui raconte le fait divers, le fait divers dans un village.
Mais pour les gens qui ne sont pas initiés à la littérature, déjà le livre est très court. Il est terrible. C'est un des livres, je crois, avec American Psycho, un des seuls livres que j'ai arrêté en cours de lecture parce que j'étais pris de nausée quand même. Tiens, ça, c'est un des derniers livres que j'ai lus.
Amos Oz.
Amos Oz, Judas, auteur israélien, athée.
Qui frôle le prix Nobel chaque année.
Ouais, mais formidable. Cette théorie sur Judas, qui n'est pas le traître ayant vendu le Christ, mais au contraire, celui qui aimait tellement le Christ qu'il a dénoncé pour prouver aux hommes qu'il allait ressusciter et voyant. Et c'est là que, évidemment, les théologiens ne sont peut-être pas d'accord avec Amos Oz. Voyant qu'il ne ressuscitait pas, choisit de se suicider parce qu'il dit décidément, il n'est pas le fils de Dieu, il est juste un homme, comme vous et moi, un homme exceptionnel, certes. Et donc voilà, donc Judas n'est pas un traître, mais au contraire son plus grand fan, quoi. Et cette théorie est très belle et elle a été défendue par d'autres historiens, hein, je la trouve intéressante.
Bon Bruno, on pourrait rester des heures, on a fait à peine 1% de votre bibliothèque, mais on va vous laisser pour la ranger, pour prendre le temps de tout classer par ordre alphabétique.
Merci.
Merci beaucoup Bruno.
C'était chouette Nicolas, merci.
À bientôt,
beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Retour en studio, merci beaucoup à Bruno Solo pour ce beau moment et on se retrouve dans un instant pour un moment aussi poétique avec François Morel, à tout de suite.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre, dernier chapitre avec un moment de poésie que je vous propose, c'est-à-dire réécouter la visite de la bibliothèque de François Morel.
Bonjour François Morel.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. On est chez vous, dans votre maison, on est en région parisienne.
Oui, on est dans le Val d'Oise.
Val d'Oise.
Pas loin de la forêt de Montmorency.
On est dans votre salon, grand salon, avec des beaux fauteuils.
Asseyez-vous.
Merci, merci beaucoup. Vous lisez ici ?
En fait, je lis plutôt là-haut. Bon, en fait, quand vous êtes arrivé, j'étais en train de lire.
Vous lisiez quoi ?
Je lisais « Peuple souverain ». De Pascal Horry.
Il y a de la BD, hein. Je vois du Riyad Satouf, l'Arabe du futur.
Ouais.
Tout à l'heure, j'ai vu les cahiers d'Esther au-dessus de votre piano, comme une partition.
Ouais, c'est parce que je l'ai reçu hier et que je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu. Mais ça me fait extrêmement plaisir. Là, je l'ai reçu, ce livre-là. Mais je vous rassure, il y a plein de bouquins que j'achète, moi.
Il y a des jolis dessins un peu partout, encadrés aussi.
Ouais.
Vous aimez le dessin en
fait. J'adore. Et j'ai plein de bouquins d'ailleurs de Chaval ou de je crois que j'ai tous les Sampé. Ouais. J'adore cet humour-là.
Oui, Sampé, ça vous va bien, effectivement.
Je ne sais pas si ça me va bien.
C'est
votre
école,
tout cas, moi, ça me va bien, oui. Ça me va bien, mais ça m'aide ça m'aide à vivre, ces dessins-là.
Là, vous avez une œuvre de Ernest, Pignon Ernest.
Oui, mais j'ai fait une fois, c'est Poubelle. Enfin, c'est-à-dire, je suis allé lui rendre visite. Et j'ai dit, ah, c'est joli ça. Il m'a dit, oh non, c'est nul, c'est un essai, je vais foutre ça à la poubelle. Et je lui ai dit, avant de le foutre à la poubelle, tu veux pas me le donner, que je l'encadre. Et donc il me l'a signé et je l'ai encadré. Et c'est beau, c'est un
portrait. Ouais, c'est un beau déchet. Hein.
Ouais, c'est des déchets comme ça, moi j'aimerais mieux en faire.
Et un portrait, un visage.
Le visage de Verlaine. Ouais.
Là, vous avez une belle étagère avec toute la collection blanche, enfin toute.
Pas toute, non, il y en a d'autres.
Loin de là, mais beaucoup d'exemplaires de la collection blanche de chez Gallimard. Vous aimez cette collection en particulier ou vous aimez bien que ce soit une étagère jaune comme ça ?
Oui, c'est ça, c'est une étagère jaune. Il doit y avoir pas mal de.
Il y a Daniel Pénac.
Il y a Pénac.
Vous aimez ça ?
Ouais.
Ça vous correspond, je trouve.
Ah bon ? Ouais, bah, tant mieux. Ouais, moi j'adore. Je lis tous les bouquins du Pénac, ouais. Et le dernier m'a beaucoup plu aussi. Peut-être, il y a peut-être des Modiano aussi, non ?
Il y a Le Clésio. Modiano.
Ouais, ça j'adore ça aussi.
La Petite Bijou, je ne l'ai pas lu celui-ci.
Vous voulez que je vous prête ?
Oh, c'est gentil. Vous prêtez vos livres ?
Oh oui.
Est-ce que vous marquez au crayon de bois sur la première page François Morel ?
Là, regardez si c'est marqué. Non, en général, non. Sauf quand je tiens vraiment un livre, ceux-là, ils sont... Pourquoi ils sont pas là, les autres Modiano, alors ?
Ben, vous les avez peut-être prêtés à tout le monde.
Ouais. Ce que j'aime bien, je crois, dans le fond, dans les livres, c'est quand ils m'échappent et quand je ne comprends pas pourquoi je les aime. Mmh. J'aime bien être déplacé comme ça. Je trouve qu'il y a ça chez Modiano, comme il y a ça chez du billard au théâtre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on aime ça et on ne sait pas pourquoi on est pris dans un style. Et Modiano, j'aime bien toujours le moment. À chaque fois, je me concentre en les lisant, en me disant, il y a un moment où je vais être perdu et ça sera à quel moment. Et puis, parce qu'au début, il raconte une histoire, c'est assez précis, etc. C'est même hyper précis avec les lieux extrêmement précis, géographiques, etc., les adresses et tout ça. Et on se dit, on comprend bien. Et puis, à un moment donné, paf, on ne sait plus si on est dans le passé ou dans le présent. Et on ne sait pas à quel moment on bascule dans une espèce de brouillard qui est son cerveau et dans lequel moi j'adore me perdre.
On est juste à côté de votre table basse. C'est compliqué pour prendre l'apéro parce qu'il y a des livres partout. Donc il y a quand même un exemplaire de Comprendre Star Wars quand on n'a pas toujours compris qui est le père de Luke Skywalker.
Vous le connaissez ?
Ce livre-là, non ?
Ouais.
Mais vous êtes fan de Star Wars ?
Ben
au
non,
contraire, vous essayez
non,
de...
Je me permets de vous l'offrir.
Ah, bah, c'est gentil.
Voilà.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous êtes fan de Star Wars ?
Oui. Oui, oui,
ah,
oui.
Bah alors,
c'est pour ça que j'en ai peut-être pas tellement besoin, parce que je sais qui est le père de Luke Skywalker.
Ouais, mais quand même, c'est bien.
Je peux vous le dire, c'est Dark Vador.
C'est pas vrai. Vous m'en apprenez de belles.
Il y a un étage, on va peut-être monter, voir s'il y a des livres.
Très bien.
Là, il y a un meuble bas avec beaucoup de beaux livres. Il faut s'allonger devant pour le consulter comme vous venez de faire, finalement.
Bah, je crois, oui. Ah, ben là, voilà. Elena Ferrante est toujours là.
Là, on est dans votre chambre.
Ouais, ni plus ni moins.
Oh, L'art de perdre sur votre table de chevet d'Alice Zénitaire, dont on parle beaucoup pour le prix Goncourt, notamment.
Ah bon, d'accord.
Ouais, ça vous plaît ?
Oui, 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 beaucoup.
Vous en êtes à la page 133.
Exactement. Donc, ce que j'ai lu jusque-là, ça m'a plu. Et en dessous, il y a...
Et dessous, ouais. Des proches, chroniques de la haine ordinaire.
Ben, je viens d'en relire récemment. C'est une mine. Enfin, c'est une mine, c'est une inspiration. Ah ben, lui, j'avais osé l'aborder une fois, je l'avais vu à la FNAC. Mais c'était il y a très très longtemps, je crois que c'était genre en 84. Je jouais au Caveau de la République, le lieu des chansonniers à l'époque. Et donc, je l'avais abordé. Il était en train de lire un bouquin à la FNAC sur les champignons. Et donc j'étais allé vers lui et je lui disais, monsieur Desproges, ça me ferait tellement plaisir si vous vouliez venir me voir. Et il m'a dit, vous jouez où ? Je lui ai dit, au Caveau de la République. Et il m'a dit, ben, je viendrai sûrement pas. voilà ma rencontre avec Pierre Desproges.
La belle histoire du crapaud boudin.
D'ailleurs, j'ai lu des trucs, parce qu'il y a un bouquin qui vient de sortir, qui est vachement beau d'ailleurs, que vous connaissez.
Ah bah oui,
c'est la Desproges par Desproges, fait par Perrine. Desproges. Et il raconte là-dedans notamment sa détestation des chansonniers et il explique pourquoi il n'aime pas les chansonniers. D'ailleurs, il ne faudrait pas généraliser parce que le plaisir de lire Desproges, c'est qu'il ne généralise jamais rien. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est ça qui peut m'agacer chez Jacques Brel, c'est qu'il généralise parfois. Il dit « les femmes nous apprennent la prudence ». Bon, non, pour les femmes, non. Il y a peut-être une femme qui t'a appris la prudence et elle a eu tort. Mais il y a plein de femmes qui nous apprennent la folie, l'imagination, le bonheur, l'amour, enfin bon, tout ça. Et donc, il ne généralise pas et Desproges ne généralise jamais. C'est ça que j'aime bien.
Desproges, je dirais « cette femme ».
Oui, « cette femme ». D'ailleurs, c'est exactement, il est très proche de Brassens là-dessus. Dans le dialogue entre Ferré, Brassens et Brel, moi j'adore à chaque fois ce que dit Brassens. Il dit, il y a des femmes qui sont merveilleuses, il y a des connes, on ne peut pas généraliser. Voilà, c'est bien. Des femmes sont plus fortes que les hommes. Sont... c'est une citation.
Oh, bah, y a une bibliothèque de Pléiade. Elle est un peu cachée, il faut dire.
Ah oui. Mais c'est pas là où je lis plus les bouquins, en fait. Et j'en ai même ailleurs, oui. Je trouve ça un peu lourd à lire.
Bon, puis c'est fragile.
Mais c'est pas mal d'avoir, par exemple, tout Prévert, tout Boris Vian.
Tchekhov.
Ouais.
Zola. Bonsard.
Je pourrais ranger un peu. Mettre le Prévert à côté de Prévert.
Mais c'était peut-être classé par ordre alphabétique, non ?
Ah oui, c'était rangé, là. Mais alors, alors je me suis trompé. Le Prévert, il doit être là. Oh, le bordel. Pardon. Et Aragon, il pourrait être là, alors ?
Ah ben, en premier.
Bah oui. Bon. Aragon Aimé. Marcel Aimé.
Alors, A-R-A-Y.
A-Y.
C'est bon.
Ça, c'est bon. Non, le Y avant, non?
Non, non, après, après.
Ah oui, pardon. Voilà.
Stendhal, vous pouvez déjà le mettre
un peu plus loin. Ouais, Vian, je peux le mettre là. Et en même temps, on aurait envie de mettre Vian à côté de Prévert, vu qu'ils étaient voisins.
Ah oui.
Queneau.
Molière. Le journal de Jules Renard.
Oui. Merveille.
Ah ben, c'est splendide. Celui-là, vous l'avez lu, hein. Il est
ah
annulé,
ouais.
Hein.
Ah ouais, ouais. En fait, c'est avec les Simenons ce qui me réenclenche la machine à lire. Parfois, je suis en tournée, tout ça, puis je n'arrive pas à lire, donc je lis le journal et je fais les mots croisés. Et de temps en temps, je me dis, il faut que je relise un livre. Et alors souvent, pour réenclencher ma machine et mon désir de lire, soit je me plonge dans le journal de Jules Renard, là, il suffit de lire un paragraphe et à chaque fois, on est ébloui par le style et la méchanceté. Et puis parfois aussi, c'est en lisant un Simenon. Parce que tout de suite, on est plongé ailleurs et dans un univers extrêmement prégnant. Et ça, tiens, ah ouais, ça, c'est marrant aussi. Il y a Jean Carmé qui a écrit un texte qui s'appelle Banalité et qui, je trouve, est une merveille.
Banalité.
Banalité, page 129. J'ai une vie très intéressante. Il m'arrive toujours des choses. Cette nuit, par exemple, j'entends un bruit, je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit. Je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve? Le chat. C'est intéressant. Plus fort encore, tous les ans, au mois de juin, j'ai le rhume des foins. Cette année, je l'ai maintenant. Ah. Ça change. Il y en a qui, tous les matins, se lèvent à la même heure. Moi, un jour, c'est 8h moins le quart. Le lendemain, c'est 8h moins 10. Il n'y a pas de règle. Vendredi, au lieu d'un hareng, je me ferai un merlan. Jamais la même chose. J'ai fait la connaissance d'une femme. Je lui ai dit, venez passer la soirée chez moi. Elle me dit non. Encore un souvenir.
C'est beau, non?
Ouais, c'est super.
Il y a d'autres livres dans vos toilettes, vous m'avez dit.
Oui. Bon, il y a quelques livres, hein. Mais non, mais ça, c'est parfait. Ben, moi, j'aime bien, il y a des bouquins pour les toilettes.
Mmh. Les chroniques notamment. De François Sagan, c'est pour les toilettes, vous pensez-vous?
Pas les chroniques de François Sagan, forcément, mais les chroniques, c'est pas mal. Ouais. Parce que ça, c'est court. Ça se lit assez rapidement.
Il y a la vie de Gérard Jugnot, on peut le dire.
Oui, bah, c'est parce que
la biographie.
Ouais, mais c'est pas, ça veut pas dire que ce sont
non, des, non, il y a pas de mépris, hein, voilà.
Non, pas du tout. C'est sans doute qu'ils ont été lus là. Et puis il y a même La Gare des Michards. Ah. Parce que ça, pour les toilettes, c'est pas mal. On peut lire une page de la littérature. André Gide, Giraudoux, Paul Géraldi. Et puis
Breton. Le livre. Voilà. Le chapitre sur le surréalisme.
Voilà.
Bon, ben merci François Morel, on vous laisse avec tous vos livres un peu partout dans cette belle maison.
Ben merci d'être passé.
Merci beaucoup François Morel.
Merci.
Retour en studio et c'était la dernière page de cette Voix et Livres de l'été. Merci Héloïse et Sébastien.
Merci Nicolas.
À dimanche prochain. Merci beaucoup Anne Burzinski.
Merci Nicolas.
Bon retour à la librairie L'écriture de Vaucresson. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour d'autres livres et d'autres bibliothèques. Celle de Nathalie Dessay par exemple, la cantatrice carrément. Et celle de MC Solar.
Ah, oh, c'est bien ça.
La semaine prochaine, salut.
Oh, toute ma jeunesse.
Europe 1, 14h, 15h. La Voix est livre.
Nicolas Carreau.